mais ça ira bien. Enfin, bon, je pense que le plus simple, c'est de vous passer la parole tout de suite. Merci. Alors, je vous remercie d'avoir accepté.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Laurie, très vivement. Je suis très heureuse. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à cet événement. Merci. Alors, je vais vous parler des passions des martyrs. Donc, en Iran contemporain, je suis anthropologue et je vais vous apporter donc des exemples concrets aujourd'hui. Alors, un simple soldat tué à l'âge de 23 ans pendant la guerre Iran-Irak avait écrit dans son testament cette phrase que vous voyez. « Ô Dieu, si on me noie dans l'eau, si on me jette au feu, si les balles de l'ennemi transpercent ma poitrine, je l'accepte de tout corps et de toute mon âme par l'amour de ta rencontre. Mon seul rêve est de voir ta face et de venir avec toi. » Ce sont des phrases comme celle-là, très nombreuses dans les cahiers de martyrs de la guerre Iran-Irak, écrites souvent au milieu du feu et du sang entre les opérations qui m'ont interpellée très sincèrement alors que je travaillais sur la mémoire de cette guerre. Donc, ce matin, on a beaucoup parlé du terme shahid ou martyr. Donc shahid en persan et en arabe comme martyr signifie le témoin de la foi. Dans l'islam, le martyr, comme vous le savez très bien, est associé presque systématiquement à la guerre sainte, soit la mort en faisant le djihad sur le chemin de Dieu, ce qui implique le recours à la violence physique. Dans l'islamisme politique contemporain et dans les représentations médiatiques surtout courantes actuellement, l'exemple du martyr islamique est l'attentat suicide dont l'auteur, supposé normalement sans valeur et sans perspective, se donne la mort dans le seul but de faire un maximum de victimes et de terrifier les victimes. Ainsi, le martyr musulman actuellement est perçu comme une catégorie générique dans tous les sujets, bien que se référant à l'ordre sacré, sont en fait dépendants d'objectifs sociopolitiques. Du côté des sciences sociales, d'où je viens, tout se passe comme si les recherches ne devaient pas aller au-delà des explications matérielles et causales. Les motifs spirituels, mystiques, métaphysiques, exprimés par les martyrs eux-mêmes, sont ainsi écartés pour expliquer leurs actes. Ces explications et ces interprétations ont bien sûr leur validité du point de vue des sciences sociales, mais me semble réductrice et incomplète parce qu'elle passe à côté du vécu conscient de ces acteurs. Donc mon approche des témoignages des martyrs de la guerre Iran-Irak souhaiterait enrichir l'approche empirique de l'anthropologie par la connaissance des références doctrinales chiites de ces hommes. Et donc ici, je vais vous présenter, selon le contenu des textes qu'ils ont laissés, leur univers subjectif. Puis, si j'ai le temps, je vais vous expliquer aussi la dynamique de la société iranienne aujourd'hui, autour de leur mémoire. Alors, pour rappel, plus de 500 000 personnes, après, il n'y a pas de consensus sur les chiffres, mais plus de 500 000 personnes ont perdu leur vie pendant les 8 années de guerre entre 1980 et 1988 en Iran, toutes qualifiées officiellement de martyrs. Parmi elles, un grand nombre de combattants volontaires, près de 200 000 personnes, sont des martyrs au sens particulier, souvent des jeunes, même de très jeunes, et qui ont laissé derrière eux une jeune épouse, de jeunes enfants, des parents, des frères et sœurs, très attachés à eux. Ces jeunes martyrs partaient en combat en étant conscients qu'ils allaient être tués, qu'on utiliserait leur corps comme bouclier ou par exemple comme des sacs de sable pour faire avancer l'opération. Mais ils l'acceptaient volontiers et même passionnément. Alors je reviendrai sur ce fait. Je continue encore avec quelques éléments de contexte par rapport à cette guerre. La guerre Iran-Irak a déclenché en septembre 1980 suite à l'attaque de l'armée irakienne au territoire iranien. Une guerre a commencé alors, une guerre qui a duré 8 ans et a marqué, on peut dire, l'étape la plus sanglante et la plus décisive de l'histoire contemporaine de l'Iran. Il s'agit d'une guerre inégale du point de vue des équipements militaires parce que l'Iran sortant de la révolution était très fragilisé et aussi subissait des embargos. Dans ces conditions, cette extrême fragilité va en fait se révéler être un facteur d'unité à l'intérieur de l'Iran. L'idéologie religieuse du régime s'en voit alors renforcée et cette guerre, de fait imposée, a été appelée la défense sacrée, donc défense al-Muqaddas, et non pas le djihad, parce que comme vous le savez, comme M. Jambet l'a très bien expliqué ce matin, donc, dans le chiisme, le djihad offensif est soumis à certaines conditions et ne peut pas avoir lieu en période de l'occupation de l'Iran. Tandis que le djihad défensif peut être légitime. Donc, pour surmonter cette guerre, les dirigeants, notamment l'ayatollah Khomeini, ont eu recours avec succès à des levées en masse de volontaires appelés Basiji. Donc, ça veut dire mobiliser. Et ce sont des jeunes, parfois de très jeunes, à partir de 13 ans, qui sont exaltés par la référence à une martyrologie intrinsèque au chiisme. Bon, toute révolution et toute guerre a bien sûr leur martyr, dont le sacrifice pour la cause sublimée est célébré après coup par la nation ou par la communauté. Ce statut et ses valeurs paraissent universel. Cependant, ce concept et cet exemple ont pris en Iran pendant cette guerre une sacralité tout à fait nouvelle, et proprement métaphysique, si je peux dire, du fait de l'association entre ces événements et la mémoire chiite originelle issue, comme vous le savez, de la tragédie historique de Karbala et du martyr de l'imam Hossein, le troisième imam, sa famille et ses compagnons. Cette martyrologie a été réactivée en fait en Iran dès les prémices de la révolution, c'est-à-dire à partir des années 60, par une idéologie qui encourageait l'individu croyant de sortir de son rôle traditionnel, doloriste et quiétiste, celui qui était dans l'attente patiente du retour de Mahdi, en fait le sauveur providentiel, pour devenir un potentiel soldat actif capable de mépriser la mort, glorifier la liberté, de dire non à la soumission, à l'oppression, et de suivre l'imam Hossein en son temps, ou de devenir le soldat du Mahdi en son temps. Durant toute la période de la guerre, les leaders politiques assimilaient constamment les conditions de la guerre aux événements de Karbala. Les personnages contemporains ont été assimilés à des figures de l'épopée sacrée, tour à tour. Shah ou Saddam Hussein ont été nommés les Yazidis du temps et les victimes des combats ont été appelées Shohada en référence aux saints martyrs de Karbala. Également, toute une terminologie a été empruntée à la dramaturgie de Karbala pour désigner des lieux, des personnalités, des événements politiques, militaires, etc. pendant toutes ces années de guerre. L'héroïsme révolutionnaire identifié à celui de l'imam Hossein, comme vous voyez ici sur cette photo, qui est pris du testament d'un martyr, donc, est résumé dans les formules qui étaient devenues proverbiales qu'on entendait souvent pendant cette décennie, comme « je préfère la mort rouge à une vie indigne » ou « la splendeur du sang contre l'épée ». Ainsi, l'épopée de Karbala devient presque inséparable du temps présent. Elle a franchi une date précise dans le passé et est un lieu circonscrit sur la terre. Et devient susceptible de se produire partout et constamment tant qu'il y aura des opprimés et des oppresseurs. Et donc, on disait cette formule très connue, toute terre est Karbala, toujours est Ashura. De même, le statut de martyr perd de sa singularité liée aux figures uniques du chiisme originel pour se banaliser et s'universaliser. Les frontes de guerre deviennent symboliquement le Karbala de l'Iran, alors que le vrai Karbala était situé de l'autre côté de la frontière. Et la société, le théâtre des défilés funéraires quotidiens autour des corps des martyrs revenus du front. Et c'est ainsi, en fait, que les corps des martyrs deviennent un élément sacré. Le martyr, en fait, son cadavre, son sang devient comme les éléments qui allaient constituer un idéal de beauté, de l'ordre du sacré. Et ça, cette image que vous voyez était une image, en fait, moi j'ai grandi en Iran, pendant toute mon enfance, cette image était affichée partout et ça représentait vraiment la beauté. Et par conséquent, de même manière, les tombes des martyrs dans tous les villages et villes deviennent les lieux quasi saints pour une partie de la nouvelle société iranienne. Elles se fondent, elles sont fréquentées quotidiennement par les mères, les femmes, les enfants, les amis des martyrs, mais aussi par tous les gens qui admiraient ces martyrs sans avoir eu la possibilité d'accomplir les mêmes actes sacrificiels. Et ces terres sont considérées en fait comme sanctifiées par les corps d'hommes purs et innocents ayant eu le privilège, je cite, d'être choisi par Dieu parmi les meilleurs. Donc c'est une idée centrale de la martyrologie chiite que l'on rencontre aussi constamment dans les textes laissés par ces martyrs, dont je vous montrerai des extraits tout à l'heure. Et de même, le sang du martyr devient le symbole de la sacralité. Toute personne de passage dans les divisions de martyrs de Behisht-e-Zahra, le grand cimetière au sud de Téhéran durant les années 80, se souvient de cette fontaine de sang que vous voyez, l'emblème le plus marquant de ces lieux, composé de 7 niveaux, lesquels coulaient interminablement un liquide rouge représentant le sang sacré des martyrs. Et donc, comme ce monsieur que vous voyez, ils sont nombreux, les Basidji volontaires qui se sont fait photographier devant cette fontaine avant de tomber eux-mêmes en martyr. Et puis après, cette fontaine a été démontée la décennie suivante avec la prise de distance de la société avec cette idéologie. Il n'existe plus en fait ce lieu. Voilà, donc ces éléments étaient une petite introduction pour vous donner un contexte par rapport à l'ambiance de la société et la martyrologie présente à cette époque. Pour vous dire quelques mots au sujet de la méthodologie de mon travail, le travail que je vais vous présenter a commencé en fait par des observations ethnographiques que je faisais au sein des divisions des martyrs du cimetière de Behisht-e-Zahra. Voilà, c'est une partie de cette division. Et là, les passages des testaments que je voyais gravés sur les tombes et les rapports des familles, amis et adeptes avec les tombes ont attiré mon attention. J'ai essayé de faire des entretiens avec ces gens. Et puis, finalement, tout cela m'a conduit à l'analyse des textes laissés par ces combattants tombés à la guerre. Et la plupart des textes que j'ai pu avoir sont constitués des testaments en fait, mais aussi des notes de cahiers de notes journalières. Mon échantillon est constitué par rapport à ce qui concerne les textes. Mon échantillon est constitué de textes de près de 300 martyrs, tous des hommes, issus de divers villes et villages iraniens, âgés entre 13 et 31 ans, de métiers, de niveau de scolarité et d'études très diversifiés, tous engagés volontairement, tous sont des Basidji. La majorité d'entre eux étaient les simples soldats d'infanterie. Certains d'entre eux sont devenus après coup très célèbres pour différentes raisons. Je vous dirai après si vous voulez, mais les raisons sont très différentes. Ils ne sont pas très nombreux. Ceux qui sont devenus célèbres ont donné leur nom à des rues, à des places, à des espaces publics où leurs portraits ont été reproduits sur les murs des villes, mais la majorité sont restés tout à fait inconnus. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas de tombe parce que leurs corps n'ont pas été retrouvés. À ce sujet, je rappelle l'importance de la tombe et les restes corporels dans l'islam en général et dans le schisme en particulier, dans les pratiques populaires, et tout le symbolisme de la tombe et le pouvoir surnaturel qui lui est attribué. Alors, les soldats sans tombe représentent quelque chose de très fort auprès des fidèles. Dans cet échantillon, certains soldats, vu le style et la quantité de textes qu'ils ont laissés, devaient avoir une habitude développée de l'écriture, tandis que d'autres étaient visiblement moins à l'aise avec l'écriture et n'ont laissé que juste quelques phrases. Après, il est évident que ces textes ne nous permettent pas de comprendre tout ce que ces hommes ont pensé ou senti avant leur mort. Et combien de fois ne m'a-t-on pas dit des phrases comme « les plus vrais, les plus purs ne s'intéressaient même pas à l'écriture hein, » que dans l'acte de martyr, c'est l'acte même qui parle, ou d'autres personnes qui étaient un peu éloignées de cet univers qui me disaient que ces textes ont été écrits sous des conditions très particulières, contraintes, etc. Bon, tout cela est à être pris en compte. Toutefois, ces textes tels quels sont importants pour moi parce qu'ils me permettent de saisir l'univers subjectif et l'appréhension singulière de certains de ces combattants, leur manière de voir le monde, et puis de cette manière sortir peut-être des généralisations simplistes. Alors, à l'analyse de ces textes, quatre points importants sont à relever par rapport à la thématique de cette journée. Le premier point, l'absence de violence. Dans tous les textes que j'ai étudiés, je n'ai pas trouvé de propos qu'on peut qualifier de violents. Après, c'est à réfléchir, à débattre, qu'est-ce que ça veut dire exactement la violence. Mais bon. Dans le sens commun, la violence physique envers l'autre est totalement absente dans les expressions. Il y a des propos très courts et très vagues mentionnant une lutte, mobilisée, tantôt contre Dushman, ennemi, tantôt contre le coffre, la piété, parfois contre Saddam, mais sans plus de précision. Il n'y a pas plus de précision que ça. En revanche, il y a une forme de violence envers soi-même, si je peux dire comme ça. Parce qu'on a des descriptions corporelles du sacrifice de soi lors des méditations avec Dieu ou avec des imams. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce que j'entends par cette violence envers soi-même. Sinon, au sujet de l'absence de violence qui m'ont frappé, qui m'étonnait au départ, j'ai essayé de faire plusieurs entretiens avec différents anciens combattants et tous confirmaient la même chose. Je vous cite la phrase d'un d'entre eux qui m'a dit, je le cite, « Je jure devant Dieu qu'aucun de mes compagnons, ni moi-même, durant les 8 années de guerre, même à l'instant où on tirait, n'étions pas contents de faire cela. » Vous pouvez chercher, vous n'aurez trouvé personne qui vous parlerait d'une attirance pour la violence ou pour tuer. En revanche, la nuit de l'opération, les uns suppliaient les autres, priaient leur martyr. Sinon, on disait les uns aux autres, « Je te supplie de faire ma shafa'at, mon intercession, si tu tombes en martyr. » Plus tard, dans mes recherches, j'ai trouvé des documents comme ceci qui illustrent ce que m'avait dit cet ancien combattant. Alors, dans ce document, comme vous voyez, bon, ça commence par, en rouge, « Besmera Beshohadon et Vassettirin » au nom du Seigneur, des martyrs et des véridiques, des saints. Ensuite, il y a la partie finale du verset 23 de la sourate Al-Ahzab. C'est ça le verset. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, et ça commence ici, ce qu'ils ont pris, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. À la lecture du texte, on va comprendre pourquoi ils ont choisi donc cette fin du verset. Ils ont écrit, nous, les signataires de ce texte, faisons le serment entre nous en présence de Dieu très haut, des prophètes, Anbiya, des saints, Awliya, et des anges de Dieu et des martyrs, Shohada, que si l'un de nous atteint le statut élevé de martyr, après il utilise le terme de Feiz et Shahodat, ça veut dire l'influx du martyr, et si Dieu lui donne l'autorisation, il fera l'intercession pour les autres signataires, sous condition que ceux-ci acceptent le message du saint verset de celui-là. Et donc il s'agit de 25 personnes qui ont écrit leur nom, chacun avec son écriture, avec une tache de sang en guise de signature devant. De ce genre de documents, j'en ai trouvé plusieurs. Ici, il y en a un autre qui est très touchant. Il s'agit de trois très jeunes soldats que vous voyez. Donc, pareil, ils ont signé un serment entre eux. Ils disent que nous, Ali Seroj, Mojtaba Saidi, Mohamed et Mortali, nous avons un serment entre nous selon lequel chacun de nous trois qui atteint le statut élevé de martyr fera l'intercession pour les deux autres le jour de la résurrection et demande à Dieu de pardonner les deux autres. Deuxième trait caractéristique, donc les salutations consacrées. Tous les textes commencent d'abord par l'appel au nom de Dieu, qui est appelé de divers noms, mais l'appellation la plus récurrente est ce qu'on vient de voir, au nom du Seigneur des martyrs et des véridiques. C'est une formule pour laquelle je n'ai pas pu trouver de source canonique. Apparemment, elle a été inventée pendant cette guerre, mais nous la voyons souvent gravée aussi sur les tombes. Puis, il salue le prophète et sa famille, les imams impeccables, qui se sont appelés également par leurs divers titres. Ces salutations proviennent souvent des textes de Ziyarat Nome, notamment le célèbre le texte saint pour la visite pieuse, en fait. Notamment le célèbre texte de Ziyarat Ashura, attribué à l'imam Barer, le sixième imam, qui lisait d'ailleurs régulièrement dans les camps militaires. Et puis, il y a la formule très récurrente prise dans ce texte, c'est « Salut à toi, ô Abu Abdallah », c'est-à-dire Imam Hussein, ainsi qu'aux âmes qui demeurent en ton seuil. On y voit aussi d'autres formulations de salutations prises du texte, notamment de Ziyarat Vares, qui est attribué à l'imam Jafar al-Sadr. Donc le sixième imam, excusez-moi, le texte précédent est attribué au cinquième imam, l'imam Vares. Celui-ci, Ziyarat Vares, est attribué au sixième imam, l'imam Jafar al-Sadr. Et donc il y a des salutations très précises pour saluer les imams impeccables qui sont pris ces textes-là. Ensuite, il salue les âmes pures des martyrs, leurs compagnons d'armes déjà tués. Et puis, il salue l'imam caché, souvent appelé martyr. Et enfin, il salue l'ayatollah Khomeini. Pas tous, mais on voit souvent. Troisième trait caractéristique, c'est l'affirmation du choix conscient et personnel. Dans la majorité de ces textes, nous lisons des phrases qui insistent sur un choix conscient individuel, une volonté forte et personnelle de s'engager et de mourir. Je vous cite la phrase d'un jeune de 18 ans de la ville de Semna, une petite ville du centre d'Iran. Il écrit « Sachez que j'ai choisi consciemment cette voie et mis le pied dans ce chemin qui est celui de l'imam Hussein. Sachez que si j'ai choisi ce chemin, excusez-moi, sachez aussi que j'ai choisi ce chemin avec passion. J'ai choisi d'embrasser le martyr sans aucun regret, parce que ce monde éphémère m'attirait à chaque instant vers le bas et vers la mesquinerie. J'ai alors ouvert mes ailes vers le monde éternel où le fana, l'anéantissement, le néant, n'a pas de sens. » Il a été tué en 83. Ou bien la phrase d'un autre jeune de 24 ans du sud d'Iran, d'un petit village du sud d'Iran. Il écrit « Ma mère, mon père, mon frère, mon épouse, mes sœurs, si je tombe en martyr, sachez que j'ai atteint le bonheur parfait, Kamal et Saoudat. Ne vous attristez pas, parce que j'ai choisi cette mort consciemment. » Et ce qui est évident en lisant ces textes, c'est qu'ils sont conscients de ce qu'il allait se passer et ils le choisissent donc personnellement. Ils choisissent personnellement le martyr. Et ce point me semble très important, d'un côté parce qu'il peut, il faut creuser évidemment, mais il peut écarter l'idée de la manipulation politique, qui est très, qu'on entend souvent à ce sujet. Et puis, de l'autre, il nous permet d'avancer la piste vers une analyse, éventuelle analyse autour de la notion de l'autonomie, ou plutôt la notion de agency, capacité d'agir, c'est-à-dire la possibilité pour un individu de choisir entre différentes possibilités offertes. Donc, je ne vais pas avancer plus que ça dans ces spéculations pour arriver au corps principal de mon propos. Quatrième point, donc la place centrale de l'amour. Les expressions de l'amour, tantôt appelées hop, tantôt appelées eshr, occupent une place centrale dans ces textes, aussi bien du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Vu la manière dont il l'exprime, il s'agit d'un amour très fort, presque total, qui va de pair avec l'idée de la soumission, tout aussi absolue, à l'égard d'un être aimé. Alors, qui est cet être aimé? L'objet de cet amour est au fait multiple, ou parfois polymorphe, se plaçant sur une échelle que je résume en trois niveaux. Au premier niveau, du bas vers le haut, se place une première personne proche et concrète, accessible. Dans la plupart des cas, cette personne est l'ayatollah Khomeini. Il est appelé tantôt le gouverneur des musulmans, Vali Amr Muslimin, tantôt le vieux de Jamoran, Pir Jamoran. En fait, Jamoran, c'était son lieu de résidence. Où le représentant de plein droit de l'imam caché, non, Ebu Balhaq et Imam Zaman, ou encore l'enfant de Hussein, Farzan de Hussein. À la lecture de ce texte, on voit qu'il est très aimé. On a des expressions très récurrentes, parfois dans le même texte, de la part d'une même personne, comme j'aime l'imam, je t'aime l'imam, mon cher imam. Et entre parenthèses, il écrit « Imam Khomeini ». Ou bien que je me sacrifie pour l'imam, pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il ne souffre pas. Ou que Dieu enlève de ma vie et en rajoute à la vie de l'imam Khomeini. Cet amour à l'égard de l'ayatollah Khomeini se traduit aussi dans ce qu'il appelle le pacte. Ah. Ils disent avoir noué un pacte avec l'ayatollah Khomeini et reste loyaux à son égard. Je vous cite un passage d'un jeune de 19 ans qui écrit « Oh Dieu, j'ai lié un pacte avec l'imam Khomeini et je suis loyal à son égard, puisqu'il est loyal à l'égard de l'islam et du Coran. Et si on me tue et on me ressuscite plusieurs fois, je ne renoncerai pas à ce pacte. » Je vous ai apporté également cette image en fait, qui montre l'écriture de ce jeune de 21 ans, Mohamed Ali Masoumian, qui venait d'un village du nord d'Iran. Alors, il écrit, il a aussi dessiné la silhouette de l'ayatollah Khomeini dans son cahier, et il écrit « Ô cher imam, ô corps battant des opprimés du monde, nous sommes loyaux à votre égard et le resterons toujours, selon le pacte que nous avons noué avec vous au début de la révolution. Nous signons ce pacte avec notre sang. Nous ne sommes pas comme les gens déloyaux de Koufa qui ont laissé leur imam impeccable seul lors des moments les plus sensibles. » Il parle de l'imam Ali en fait. « Que Dieu nous maudisse si nous vous laissons seuls. » Et à la fin, il signe « Petit soldat de l'islam qui ne se considère pas méritant. » Mohamed Ali Massoumia. En lisant ses écrits, on voit aussi que l'ayatollah Khomeini est constamment associé à la lignée des imams, soit en tant que le représentant de l'imam caché, soit en incarnant, en quelque sorte, on peut dire, dans le temps présent, l'imam Ali ou l'imam Hussein. Ainsi, il les anime en tant que leader politique, certes, mais par le lien qu'ils font entre lui et les Ahl al-Bayt, les imams. Et c'est cela, il me semble, qui est l'origine de ce rapport passionnel et inconditionnel avec lui. On voit aussi souvent, si vous vous rappelez des images de cette guerre à l'époque, aussi souvent la photographie de l'ayatollah Khomeini qui était portée par les soldats et qui font ces images font aujourd'hui partie de ce qu'on peut appeler éventuellement des reliques dans leurs affaires et qui sont exposées dans les musées de martyrs. Alors au deuxième niveau, donc du bas vers le haut, sont placés les imams. Par un passage, si je peux schématiser très rapidement, de l'autorité spatio-temporelle de l'ayatollah Khomeini à l'autorité spirituelle et quasi absolue des imams impeccables. Alors, les Ahl al-Bayt, les gens de la famille du prophète, sont souvent invoqués avec leurs divers titres. Le plus important, celui qui prend la place la plus importante, c'est le Mahdi, appelé souvent Yabn al-Hassan, c'est-à-dire le fils de Hassan. C'est le 11e imam, l'imam Hassan al-Askari. Et puis, il y a Mawla Ali, ou Mawla tout court, pour parler de l'imam Ali. On parle souvent de Bibi, notre mère, Omar Abiha, ou Sétiray et Kobra, pour parler de Fatima Zahra, la fille du prophète. Et évidemment, Abu Abdallah ou Sayyid al-Shuhada, pour parler de l'imam Hussein. Ils ont tous une place centrale dans les affections et les dévotions de ces soldats, qui sont nommés d'ailleurs les uns les autres les Mohib et Ahl al-Bayt, c'est-à-dire les amoureux des gens de la famille du prophète. Leur désir est en fait de prouver leur amour aux imams par le martyr. On voit des phrases comme « Je veux que mon sang prouve à Ali et à Hussein que j'ai été de leurs amis. » Il y a un autre exemple qui est assez touchant d'un jeune qui s'appelle Ahmad Karimi. Il dit, celui qui aime Hussein, enfin, ce que je vais vous lire est selon les dires de ses amis. Il dit, celui qui aime Hussein doit mourir comme lui pour ne pas avoir honte à son égard. J'ai envie que le jour de la résurrection, si on veut me présenter à mon aimé l'imam Hussein, on met les morceaux de mon corps sur un bout de tissu et qu'on lui dise « Voici Ahmad Ekel ». Sinon, les imams sont aussi pris comme témoins pour l'acte sacrificiel du martyr et considérés comme vivants et agissants. Selon les récits et les souvenirs, dans leur habitude journalière, divers cultes ont aussi été rendus à ces figures sacrées, à travers par exemple les répétitions de leur nom, le zekr, la lecture de textes sacrés d'invocation, notamment le Douaye Tavassol, le Douaye Kumail, ou Ziyarat Ashura, ou bien diverses pratiques élégiaques de rosé, de pleurs, par compassion pour les souffrances des imams et qui se mêlaient à la souffrance d'eux-mêmes qui étaient dans la perte et dans le chagrin pendant la guerre, étaient donc très pratiquées. Donc pour changer peut-être un peu l'ambiance aussi, je vous ai apporté un peu des exemples sonores de ces élégies chantées pendant cette période-là dans les bases militaires. Aucune valeur, voilà, d'une forme d'admiration pour la mort et pour la souffrance. Et il mentionne les figures de l'épopée sacrée, il mentionne aussi le fait qu'il voit tous ses camarades par terre, tomber par terre sur le champ de guerre, qu'il appelle des tués, en fait. C'est ça.
Mehnete o zaman.
ces récits, il y a aussi parmi ce que les survivants m'ont confié, des histoires empreintes de surnaturel au sujet des imams. Certains disent avoir senti par moments la présence d'un de ces êtres sacrés, des imams, sous diverses formes, les avoir vus en rêve ou en vision, parfois aussi les avoir humés par un parfum indéfinissable. D'autres disent être entrés en communication avec eux, les avoir vus venir à leur secours, effectuer d'innombrables petites interventions providentielles. Par exemple, les imams qui leur montrent la solution face à une difficulté insurmontable, leur indiquent le chemin ou le lieu des campements quand ils se perdent, ou le lieu où se trouvent les corps disparus de leurs camarades martyrs. Ils pouvaient aussi prévenir le martyr imminent de certains, donner la promesse d'une victoire ou avertir d'une défaite, les prémunir pour éviter qu'ils soient prisonniers par les Irakiens, ou encore protéger les plus jeunes soldats de la mort. Donc, il était courant de croire en la sacralité des noms des imams venaient au lieu, au régiment et aux opérations. Et les soldats, en fait, se servaient de ces noms qui étaient donnés à leur opération, par exemple, comme un moyen pour faire intervenir les imams, pour avoir leur soutien dans les opérations, ou encore de défaite ou de mort, bénéficier de leur intercession, de leur shafa'at, pour leur passage d'ici-bas à l'au-delà. Et puis il y a aussi beaucoup d'innombrables récits légendaires, par exemple de ceux qui, dans les dernières secondes de leur vie, auraient vu les imams, auraient souri, auraient formulé des phrases en s'adressant à eux, en les saluant. Alors, tel amour et telle loyauté trouvent certainement leur racine dans la notion chiite de la valaya, cette notion polysémique qui a été l'objet de tant de réflexions dans le domaine de l'islamologie et qui signifie à la fois l'alliance, l'amitié ou l'amour entre l'imam et Dieu, la nature et la fonction de l'imam, son autorité temporelle et spirituelle après le prophète, auprès des fidèles, mais aussi l'amour inconditionnel, la soumission du fidèle à son égard. La valaya est alors comme un cercle dans le schisme qui relie l'imam à Dieu et le croyant à l'imam. Et donc c'est à travers l'amour pour l'imam que le croyant peut entrer dans l'amour avec Dieu. Et donc l'homme chiite, dans sa conception, est celui qui a accordé sa loyauté, son allégeance et son amour aux imams, avant même qu'il soit conçu, lorsqu'il appartenait encore au monde des particules. Et la finalité de sa création, est de marcher dans la voie de l'accomplissement de cette loyauté. Et comme on peut entendre très souvent en Iran, les gens très simples et les croyants très simples peuvent dire « Dieu a pétri notre argile avec l'amour », c'est-à-dire l'amour pour les imams. Ou on peut l'interpréter comme on veut. Et tout cela, qui ont été tellement travaillés dans l'islamologie et la philosophie, on en voit des exemples concrets parmi les simples croyants, et qui sont ici, dans ce cas, les soldats, qui sont animés par cette loyauté et qui sont prêts à prouver cette loyauté jusqu'au bout. Or, au troisième niveau, nous allons voir, cet amour prend une forme encore plus forte et s'adresse à Dieu lui-même, sans intermédiaire, et devient presque mystique. Dans de nombreux textes, l'auteur, après avoir rendu le culte aux imams et donné des conseils à ses parents ou au peuple, elle va dans une méditation directe avec Dieu et exprime un amour encore plus fort donc à son égard, un amour qui dépasse parfois les frontières de la raison et qui le rend complètement passionné pour mourir. Pour vous illustrer l'ampleur de ces expressions, je montre des passages d'écriture de ces soldats qui, de toute simplicité, sont très forts. Celui-ci est un jeune de 15 ans qui venait de Tabriz, de nord-ouest Iran. Alors, il écrit « Oh Dieu, le seul fait que tu me connaisses, que tu connaisses mon intention me suffit. Oh aimé, chacun est amoureux d'une chose et fait tout pour se joindre à elle. Moi, je suis amoureux de toi et c'est toi mon aimé. Je supporterai toute peine et souffrance pour m'unir à toi et pour ton contentement. Je suis prête à accepter ce que tu considères comme bien pour moi. Oh amoureux des amoureux, j'aimerais mourir sur ton chemin, même si je suis coupée en morceaux, même si je deviens comme une poudre et qu'il ne reste plus aucune trace de moi dans ce monde des ténèbres. » C'est ce jeune Gorban Ali Jebreili, 17 ans, il écrit « Oh Dieu, je suis une bougie qui brûle. La seule chose que je veux de toi, c'est de ruiner mon existence matérielle et de me laisser brûler jusqu'au bout pour qu'il ne reste que des cendres de mon être. Oh Dieu, mon corps est enchanté. Je suis libérée de ce monde. J'ai renoncé à tout et je n'ai plus peur de rien ni de personne. Oh Dieu, place-moi parmi tes serviteurs qui ont atteint le statut élevé de martyr. J'ai mis mes pas amoureusement dans ton chemin. Je veux t'offrir mon âme. Et hélas, que je n'ai qu'une seule âme. » Nous sommes, et je vais passer peut-être à celui-ci. Bahman Dourouli, il écrit 25 ans, donc il venait du sud d'Iran, de Abadan. Il écrit « Oh Dieu, j'ai autant peur de toi que l'espoir de ta miséricorde. Oh Dieu miséricordieux, je n'ai personne d'autre auprès de qui me réfugier. Oh Dieu, si tu ne me pardonnes pas, je serai patient contre cette souffrance. Mais comment pourrais-je supporter, moi qui suis tombé amoureux de toi, ton éloignement? Au milieu du faux de mes péchés, ce qui m'a fait souffrir le plus, c'est ton éloignement. » Et lui avait demandé dans son testament qu'on écrive sur sa tombe seulement avec le doigt. Il ne voulait pas de tombe, rien. Il avait demandé d'écrire avec le doigt sur sa tombe cette phrase qu'ils ont écrite, mais pas avec le doigt, mais bon, simplement, un brin de paille offert à Dieu. Pour dire Dieu, bon, il a utilisé une expression très élogieuse. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une forme de violence envers soi. Je ne suis pas certaine que le terme violent est approprié, mais bon, c'est cela l'exemple de cette violence. Il dit « Oh Dieu, ô divinité, moi faible et impuissant, j'aimerais que l'ennemi arrache mes yeux, coupe mes bras, sépare mes jambes de mon corps et tire sur mon corps, coupe ma tête, pour qu'il voit qu'au comble de la pression et de la souffrance, alors qu'il a tout pris de moi, il ne peut pas prendre une chose, et c'est ma foi et mon amour pour toi. Mon aimé, pour toi, l'absolu de l'univers de l'être. Certes, un tel amour porte le martyr en son sein. Ce monsieur, Alireza Galin Moratam, il est donc la personne la plus âgée de ces martyrs avec qui j'ai travaillé, donc qui a 31 ans. Il était professeur de collège et donc il avait une habitude très développée d'écriture. Il a laissé beaucoup de textes. Et voici un passage de ce qu'il a laissé. Il dit, « Oh Dieu, rends-moi si amoureux de toi que je puisse regarder mon âme coupée de mon corps avec les yeux du corps. Puis, d'une telle ascension sanglante, appelle-moi vers toi, tels les quatre oiseaux dont la chair hachée et entremêlée, placée sur les quatre mondes différents, a pu retrouver son existence par ton autorisation. » pour exhaler dans l'être et voler vers ton serviteur véridique, Abraham. En fait, il fait allusion à un récit qui se trouve dans le Coran. Et il dit, Dieu, ô Dieu, je te demande de faire de sorte que, suite à l'explosion d'une bombe, d'un obus, d'une roquette, ou même d'un tir de colère de l'ennemi, mon corps soit éclaté, telle la chair de ces oiseaux, et qu'ils soient dispersés en morceaux sur divers mondes, puis fais en sorte que mon âme s'envole par ton autorisation joyeusement vers toi, et que ton appel de retourne, il écrit en arabe en irjay, me ravisse, et mon âme rehausse sa voix de la baïk. La baïk, il écrit en arabe, c'est-à-dire à toi, et monte jusqu'à ton paradis. Il l'écrit aussi en arabe, Jannati. Elle ne se pose pas avant de sentir la brise de satisfaite et agréée, Raziat al-Marziya, il écrit en arabe, pour que je reste pour toujours dans le lieu de ta présence. En fait, voilà. Ici, ce qui est intéressant de préciser, c'est que ce terme arabe qu'il a cité, entre parenthèses, vient du verset 28 de la sourate Fajr, l'aube, qui dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre parmi mes serviteurs, entre dans mon paradis. » En fait, « Jannati », ça veut dire « mon paradis », mais lui, dans son texte, il écrit « ton paradis ». En arabe, ça veut dire « mon paradis ». Bon, selon le tafsir de Qumi, il y a deux interprétations par rapport au sujet avéré de ce verset. Dans la première, âme apaisée appartient à celui qui a accepté la valaya de Ali. Il s'agit de celui qui, en mourant, l'ange appelle en disant « Ô toi, âme apaisée, retourne par la valaya de Ali, que Dieu soit content de toi par récompense. » Dans la deuxième, Qumi se base sur un hadith attribué à l'imam Sadr, le sixième imam, selon lequel âme apaisée est seulement l'imam Hussein lui-même. Également, selon le même tafsir, mon paradis est différent du paradis. Mon paradis est alors un lieu particulier du paradis qui est auprès de Dieu. Et puis, donc selon Qumi, dans l'expression « parmi mes serviteurs », il s'agit en fait du prophète d'Ali et d'Abraham. Et puis donc dans ce texte, on voit que ce martyr, il devait savoir sûrement ses interprétations. Il désire, il supplie Dieu au prix de cette manière de mourir, de lui accorder le statut de très élevé, équivalent au statut de l'imam Hussein parmi ses serviteurs, c'est-à-dire auprès d'Abraham, prophète et Ali. Bon, ils sont nombreux ces témoignages, ces écrits laissés par les martyrs. Peut-être que je vais passer à celui-ci. Donc, Ali Asrael Ronakdor, en fait, lui, c'est la même personne dont je vous ai cité un passage du texte au début de mon exposé. Il dit, « Oh Dieu, je n'ai pas peur de ton enfer, je n'ai pas non plus l'ambition de ton paradis, je t'adore parce que je te trouve digne d'adoration et parce que je te trouve juste. Je sais que la seule chose qui me donnera le bonheur sera d'être à côté de toi. » Alors, ce propos apparemment est un propos mystique très célèbre qui vient à l'origine d'un poème attribué à Rabi'a et après repris par d'autres mystiques. Mais dans les références chiites, l'imam Ali aussi parle de ça dans le livre de Nahj al-Balagha, donc une compilation datant le 11e siècle, dans le Hikmat numéro 237. Il parle de trois sortes d'adoration. L'adoration par intérêt, qui est l'adoration des marchands, des tout-jobs. L'adoration par tort, qui est l'adoration des habits, des esclaves. Et l'adoration par reconnaissance ou par connaissance, qui est celle des ahrar, des gens libres. Les gars, on ne peut pas savoir quelles étaient exactement les références de ces jeunes, mais on se voit qu'ils étaient imprégnés dans un univers de mystique populaire. Je passe de celui-ci aussi pour arriver à Moussa Ibrahimi, qui est aussi très frappant. Il a 20 ans, il vient de Khorasan. Il écrit: « Ô Dieu, maintenant que je suis seul avec toi, je te prends comme témoin. La chose la plus chère et la plus belle que tu m'as donnée est ma vie. Je n'ai pas une meilleure chose que cela, mais je te l'offre. Je te donne en cadeau la plus belle chose que tu m'as offerte. » Parce que, après, il cite ce poème de Rumi, آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند که فتیل دو سنم سولی کی تا کنی که فتیل دو سیز انفان دو سن اپوز و سا فمی تو لران فو و تو لی دو افر لدو موند که تیل افر دو موند سولی کی فو دو تو. Puis il continue, « Ô Seigneur, je te prends comme témoin. J'ai choisi ce chemin en toute conscience et que j'embrasse le martyr qui est un bonheur avec tout mon être, puisque le martyr est le comble de la perfection d'un homme et que le martyr est une robe rouge qui orne les amoureux de Dieu. Comme disent les mystiques, et à nouveau, il met un autre vers. Et خوشا با فرق خونین در لقای یار رفتن سر جدا پیکر جدا در محضر دادار رفتن. Oh, comme c'est bon d'aller à la rencontre de l'ami, le crâne saignant, la tête d'un côté, le corps de l'autre, se rendre à la présence du juste. Et enfin, ce dernier, Amir Arabzadeh, qui a 17 ans. Alors, lui, il commence son texte directement par un hadith qudsi, un hadith, donc c'est Dieu qui parle. Apparemment, il s'agit d'un hadith authentique, d'après ce que j'ai pu trouver. Ce hadith a été aussi cité par Faiz Kashani, un savant chiite et mystique du XVIIe siècle, dans son livre de Kalamat al-Maknouna. Il écrit les phrase par phrase en arabe avec la traduction en persan devant, et c'est cela. C'est Dieu qui parle. Celui qui me cherche me trouve. Celui qui me trouve me connaît. Celui qui me connaît m'aime. Celui qui m'aime tombe amoureux de moi. Celui qui tombe amoureux de moi, je tombe amoureux de lui. Celui dont je tombe amoureux, je le tue. Et celui que je tue, je lui dois le prix de son sang. Et celui à qui je dois le prix de son sang, c'est donc moi-même le prix de son sang. Donc voilà quelques extraits assez frappants et assez forts des témoignages, des écrits de ces martyrs écrits sur le bouffe de la guerre. Et c'était ça qui m'a vraiment interpellée, et je me posais la question par rapport à... Enfin, ça m'a apporté plutôt une clé de compréhension de leur univers subjectif et la raison de leur mobilisation. Et avec la magnifique exposé de M. Jambet ce matin, j'ai appris beaucoup plus de choses. Mais bon, cet aspect métaphysique et religieux reste entièrement à explorer. Ce qui est important, c'est que ces personnes sont des croyants, des gens croyants qui devaient être baignés dans une atmosphère complètement, qu'on peut qualifier de mystique, peut-être populaire, mais populaire non pas dans le sens réductrice du terme, c'est-à-dire simple, des mystiques simples. Et donc, on ne peut pas balayer la question religieuse à un revers de main. Il faudrait vraiment creuser cette question, la question de Dieu, leur relation avec Dieu, qui est à la base même de leur motivation pour combattre et mourir. Et donc pour l'instant, je ne peux pas analyser sur ces propos-là, mais bon, je ne peux pas m'en passer non plus. Je vais continuer dans mes travaux. Mais ici, pour conclure cette présentation, je vais peut-être avancer sur deux axes d'analyse. Le premier point à retenir de ces écrits testamentaires est donc l'importance de l'amour et non pas de la haine comme force mobilisatrice. Ça, c'était personnellement pour moi quelque chose que j'ai compris. C'est-à-dire, cet amour qui peut, dans sa forme la plus extrême, diriger l'individu vers l'amour de soi, enfin de se faire tuer, et non pas tuer l'autre. Parce que on est dans une vision du monde où l'homme se voit éloigné de Dieu, et il en souffre et il essaye de le rejoindre. Et de ce point de vue, la mort ne s'oppose pas à la vie, mais représente un changement d'état et une suite encore plus consciente de la vie. Donc mourir en martyr n'est nullement égal au suicide. Vous savez, après la Révolution, il y a eu pas mal de sociologues ou d'analystes qui ont parlé d'un suicide de la part de ces jeunes-là. Alors, on voit que le martyr n'est nullement égal au suicide, mais signifie plutôt de se donner une existence encore meilleure, supérieure, merveilleuse. Et cet amour, parfois, comme on a vu, est tellement fort, tellement qu'il dépasse, comme on a vu, la raison, et même dépasse même les objectifs sociopolitiques, et devient paradoxalement presque apolitique, dans une relation quasi exclusive avec Dieu. Et c'est peut-être cela, cette gravité de l'amour, qui peut expliquer l'absence de la violence vers l'autre que j'avais remarqué donc dans leurs propos. Et si je peux me permettre de dire, c'est peut-être ce point qui constitue la particularité de ces martyrs chiites de la guerre Iran-Irak et les distingue des martyrs djihadistes de Daesh. Après, de leur côté aussi, c'est vraiment à explorer, à aller voir ce qui se passe dans leur univers subjectif. Mais il me semble que c'est ça qui distingue ces martyrs iraniens qui ont envie d'être tués, qui se supplient vraiment les uns les autres à prier leur martyr, enfin, que Dieu les choisisse parmi les meilleurs, et non pas du tout aller tuer les autres, même s'ils se trouvent dans une condition de guerre. Alors, le deuxième point concerne la question de la singularité individuelle de ces martyrs. Pour les observateurs extérieurs, tous ces martyrs peuvent être rassemblés dans une catégorie unique, celle des fanatisés, ce qu'on entend souvent, pour ne pas dire des manipulés, constituant la masse de des partisans de la République islamique. Pour la République islamique, ils font tous partie d'un archétype national qu'elle vante dans ses rhétoriques depuis 4 décennies et sur lequel il ne cesse d'asseoir son pouvoir. Tous ces martyrs rejoignent le même étendard qui lui appartient et c'est l'État, le gouvernement qui décide où, comment et pour quel intérêt le brandir. Oh, à travers ces textes, nous voyons la singularité de chacun, ses motivations, ses enthousiasmes uniques et sa capacité individuelle d'agir, tous basés sur sa conscience chiite. Bon, ces singularités s'observent également au miroir des dynamiques internes à la société iranienne, notamment, je ne vais pas prendre beaucoup trop de temps pour parler des faits de société actuellement. J'ai pas mal travaillé, par exemple, sur les tombes des martyrs et toute la dynamique qui se passe autour des tombes des martyrs au sein des cimetières, les revendications des familles, leurs disputes qui existent entre les familles et l'État, parce que l'État voudrait harmoniser toutes les tombes, les cimetières, alors que les familles veulent garder leur lien intime avec les tombes de leurs enfants. Et c'est là qu'on voit voilà, une revendication au droit singulier de la famille, à la mémoire de son fils, à l'engagement de son fils. Et puis aussi, j'ai travaillé également sur l'iconographie urbaine, les peintures murales, qui montrent donc la reproduction des portraits des martyrs et le rapport des gens avec tous ces portraits. Ces deux travaux sont déjà publiés, donc je ne vais pas prendre plus que cela pour le temps de cet après-midi. Peut-être que je vous montre juste quelques images par rapport aux relations des gens avec les tombes. Comme vous voyez ici, devant chaque tombe, il y a une... ce qu'on appelle Hejle, en fait, une boîte miroir qu'on a plantée dès le début de la guerre. Et cette boîte rassemble les effets personnels du martyr, enfin de chez lui, parfois les affaires de sa mère. Et c'est à travers cette boîte que la mère est en communication avec le martyr à chaque fois qu'elle va le visiter. Ça peut être la mère, ça peut être son épouse, sa fille, mais en tous les cas, on peut les voir quand on va dans les cimetières, on peut penser que ce sont des espaces un peu reliquaires, des hôtels mortuaires, alors que non, pas du tout. Ce sont des espaces féminins, des espèces de chambres miniatures à travers lesquelles la mère entretient sa relation avec son fils. Et c'est tout cela qui sont très... très revendiqué aujourd'hui, en fait, de pouvoir garder cette relation individuelle et personnelle avec chacune de ces tombes. Et puis, il y a des tombes auxquelles on attribue des pouvoirs surnaturels. Il y a un culte de saints, si on peut dire, de nouveaux saints qui est en train d'émerger au sein des cimetières iraniens aujourd'hui, sur les tombes des martyrs. Et donc, il y a différentes personnes qui entrent en communication avec certains martyrs auxquels ces martyrs répondent, viennent dans leurs rêves, leur exaucent les voeux, etc. Et celui-ci est par exemple la tombe d'un martyr qu'on appelle martyr de Rose et d'eau de Rose. On dit que sa tombe est parfumée, indépendamment de la saison du temps. Il diffuse un parfum indéfinissable, une très bonne odeur, comme tout le monde sent. Et d'ailleurs, il y a un récit à propos des gens par rapport à son corps, là, comment on l'a retrouvé, et grâce, et après longtemps, on a retrouvé son corps à travers l'odeur, le parfum qui diffuse. Et donc, voilà, il y a plein de pratiques dévotionnelles autour de la tombe de ce martyr-là. Il y a des martyrs, voilà, comme ça, qui deviennent par le culte. Par les dévotions populaires qui prennent une place importante et deviennent un peu des figures sacrées aujourd'hui de l'Iran contemporain. Bon, je vais peut-être m'arrêter maintenant pour laisser un peu de temps pour...